إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous sommes toujours dans la lecture de l'épître de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, dans laquelle il nous clarifie et nous explique la différence entre le conseil et le dénigrement, et ce afin de nous éviter de tomber dans les dénigrements en pensant conseiller, ou encore de rejeter des conseils en les qualifiant de dénigrement. Car comme on l'a vu, le conseil et le dénigrement ont certaines similitudes en apparence, mais ils diffèrent, notamment à travers l'intention de celui qui les prodigue, mais également dans la manière de les adresser. Dans le passage d'aujourd'hui, on va voir un point très important qui concerne une des plus graves manières de procéder pour dénigrer un musulman. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a donc dit « Faslun fit ta'yir » au sujet du dénigrement. Et dans d'autres versions, on trouve comme titre « au sujet de celui qui laisse apparaître le conseil alors qu'il cache le dénigrement et la nuisance, et ceci fait partie des caractéristiques des hypocrites. » L'auteur, rahimahullah ta'ala, dit donc « وَمِنْ أَظْهَرِ التَّعْيِيرَ إِظْهَارُ السُّوء وَإِشَاعَتُهُ في قالب النصح وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب إما عاما أو خاصا وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى. Il dit parmi les formes les plus apparentes de dénigrement, il y a le fait de mettre en évidence le mal et le propager, le diffuser, sous l'apparence d'un conseil, en prétendant que rien ne l'a poussé à cela, si ce n'est ses défauts, qu'ils soient généraux ou particuliers, c'est-à-dire le fait de les corriger et de mettre en garde contre ses défauts. Mais en réalité, dans son fort intérieur, son objectif est le dénigrement et la nuisance. Et ça, c'est une chose malheureusement très courante chez les gens. C'est-à-dire qu'il va blâmer un musulman en raison d'une erreur qu'il a faite, ou d'un péché, ou d'une faute. Et il va faire passer son blâme sous l'apparence d'un conseil, en prétendant ne vouloir que le bien et que la correction de ce défaut. Mais en réalité, au fond de lui, il cache quoi? Il cache son désir de nuire, de dénigrer, et de rabaisser son frère musulman. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que ceci fait partie des formes les plus manifestes de dénigrement. C'est encore plus grave que de dénigrer directement. Il dit ensuite, rahimahullah, فَهُوَ مِنْ إِخْوَانِ الْمُنَافِقِينَ. Il fait alors partie des frères des hypocrites. Demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Pourquoi il fait partie des frères des hypocrites? L'hypocrisie, c'est quoi? C'est de montrer, en apparence, l'islam, et cacher en son fort intérieur, la mécréance. Ou alors, de montrer en apparence le bien, et de cacher en son fort intérieur le mal. Et de manière générale, le fait de laisser apparaître ce qui est contraire à ce que l'on a dans son fort intérieur. Donc celui qui cherche à dénigrer, à rabaisser son frère, et qui essaye de faire passer ce dénigrement sous l'apparence d'un conseil, il s'est alors apparenté en cela aux hypocrites. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous dit ici, il fait partie des frères des hypocrites. الَّذِينَ ذَمَّهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. Ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmés dans son livre, en plusieurs endroits. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَمَّ مَنْ أَظْهَرَ فِعْلًا أَوْ قَوْلًا حَسَنًا وَأَرَادَ بِهِ التَّوَصُّلَ إِلَى غَرَضٍ فَاسِدٍ يَقْصِدُهُ فِي الْبَاطِنِ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, il a blâmé celui qui montre en apparence un acte qui est bon, ou une parole qui est bonne, mais il veut par cela atteindre un objectif corrompu dont il a l'intention dans son fort intérieur. Comme par exemple le fait de prononcer une parole pour faire l'éloge d'une tierce personne. Ceci, en apparence, est une bonne parole, mais il vise dans son fort intérieur d'en rabaisser ou en dénigrer une autre. C'est-à-dire qu'il fait l'éloge du premier, mais son objectif c'est quoi? C'est d'atteindre le rabaissement et le dénigrement d'un autre. Donc il a laissé montrer en apparence une bonne œuvre, l'éloge d'un de ses frères, mais il visait, dans son fort intérieur, le dénigrement d'un autre de ses frères. Et ceci est une chose blâmable. Il dit, rahimahullah, وَعَدَّ ذَٰلِكَ مِنْ خِصَالِ النِّفَاقِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a compté cela comme faisant partie des caractéristiques de l'hypocrisie. كَمَا فِي سُورَةِ بَرَاءَ الَّتِي هَتَكَ فِيهَا الْمُنَافِقِينَ وَفَضَحَهُمْ بِأَوْصَافِهِمُ الْخَبِيثَةِ. Comme on le retrouve dans Surat Bara'a, c'est-à-dire Surat At-Tawbah, qui commence par le mot Bara'a, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a dévoilé les hypocrites et a dévoilé leurs mauvaises caractéristiques. En effet, celui qui lit Surat At-Tawbah, il verra que dans celle-ci, Allah subhanahu wa ta'ala dévoile et met en garde contre de nombreuses caractéristiques des hypocrites. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné à titre d'exemple le verset 107 de Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلًا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, de mécréance et de division entre les croyants, qui la préparent pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son messager et jure en disant « Nous ne voulions que le bien. » Allah atteste qu'ils sont vraiment des menteurs. Dans ce verset, il est question d'un groupe de gens parmi les hypocrites qui avaient édifié une mosquée à proximité de la mosquée de Quba. Et ils voulaient par cela nuire aux croyants et les diviser. Et ils avaient préparé ce lieu en réalité, non pas pour en faire un lieu d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour accueillir ceux qui combattent Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Ils voulaient donc en faire un lieu pour comploter contre l'islam et les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a donc dévoilé à son messager sallallahu alayhi wa sallam leur ruse. Il a donc dit « وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا » ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité. C'est-à-dire pour aller à l'encontre des croyants et de leur mosquée dans laquelle ils se réunissaient. En effet, les croyants, ils se réunissaient à la mosquée de Quba. Ils ont fait cette mosquée à proximité pour nuire aux croyants et pour les diviser, pour leur porter atteinte. وَكُفْرَا et un mobile d'impiété, de mécréance. C'est-à-dire que leur objectif, en réalité, ce n'était pas la foi, mais la mécréance. Alors que celui qui construit une mosquée, la base, est qu'il cherche à se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais eux, ils visaient en réalité dans leur fort intérieur la mécréance et la lutte contre Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Il dit ensuite subhanahu wa ta'ala وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ et une cause de division entre les croyants. C'est-à-dire que leur objectif à travers la construction de ce lieu était que les croyants se divisent en raison de celui-ci. Et ils le préparaient pour celui qui avait auparavant combattu Allah et son messager. Et les gens du tafsir ont dit que cela désigne notamment Amir al-Rahib, qui faisait partie des gens de Médine. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de la Mecque à Médine et qu'il s'est installé à Médine, Amir al-Rahib a mécru en lui. Et il est donc parti voir les polythéistes afin de s'entraider avec eux pour combattre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il cherchait du soutien contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ces hypocrites ont tenté de le soutenir en édifiant ce lieu qu'il prétendait être une mosquée et qui avait en réalité pour objectif de comploter contre l'islam et les musulmans. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que cet édifice soit détruit et brûlé. Et après avoir clarifié leurs réels objectifs qui étaient des objectifs corrompus. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ils jurent en disant, nous ne voulions que le bien. C'est-à-dire que les hypocrites juraient ne vouloir à travers la construction de cet édifice que le bien. Wallahu yashhadu innahum lakadibun. Mais Allah atteste qu'ils sont vraiment des menteurs. Et il n'y a pas de doute que l'attestation d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus véridique que leur serment mensonger. On voit donc à travers cela que les hypocrites ont fait un acte qui en apparence était une œuvre pieuse, la construction d'une mosquée. Mais dans leur fort intérieur, ils avaient un autre objectif. Et ils cherchaient à travers la construction de cet édifice, nuire à l'islam et aux musulmans. C'est pour cela que faire un acte ou prononcer une parole qui en apparence est une œuvre pieuse, en ayant dans son fort intérieur une mauvaise intention, ceci fait partie des caractéristiques des hypocrites. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre verset, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 188 de Surat Ali Imran, dans lequel il dit subhanahu wa ta'ala, لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Ne pense point que ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont fait et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait ne pense vraiment pas qu'ils trouveront une échappatoire au châtiment. Il y aura pour eux un châtiment douloureux. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَهَذِهِ الْآيَةِ نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ لَمَّا سَأَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ » Ce verset a été descendu au sujet des Juifs lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interrogés au sujet d'une chose qu'ils lui ont cachée, et ils l'ont informé d'autre chose. وَقَدْ أَرَوْهُ أَنْ قَدْ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ Et ils lui ont montré, ils lui ont laissé penser, qu'ils l'avaient informé au sujet de ce sur quoi ils les avaient interrogés. وَاسْتَحْمَدُوا بِذَلِكَ عَلَيْهِ وَفَرِحُوا بِمَا أَتَوْ مِنْ كِتْمَانِهِ وَمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ Ils recherchaient à travers cela des éloges, et ils se réjouissaient de ce qu'ils avaient fait en lui cachant ce sur quoi ils les avaient interrogés. كَذَلِكَ قَالِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَدِيثُهُ بِذَلِكَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا C'est cela qu'a mentionné Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, sujet de l'explication de ce verset, et son hadith se trouve dans les deux recueils de hadith authentiques, c'est-à-dire les recueils d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala et d'autres. On voit donc l'explication de ce verset à travers ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interrogés au sujet d'une chose, ils lui ont caché, mais ils l'ont informé d'autre chose, en lui laissant penser que c'est cela qu'il leur avait demandé. Ils étaient donc fiers et se réjouissaient d'avoir caché la chose au sujet de laquelle ils avaient été interrogés et cherchaient à travers cela des éloges et des compliments. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens « Ne pense point que ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont fait. Ils se réjouissent d'avoir caché cette chose au sujet de laquelle ils ont été interrogés et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait. Ils aiment être complimentés alors qu'ils n'ont pas répondu à cette question qui leur a été posée. » Ne pense vraiment pas qu'ils trouveront une échappatoire au châtiment. Cela encourt le châtiment en raison de leur action. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَعَنَ بِسَعِيدٍ الْخُدْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ كَانُوا إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, il y avait des hommes parmi les hypocrites qui, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortait pour une bataille, ils restaient en arrière. C'est-à-dire, ils ne s'y rendaient pas. Ils trouvaient des excuses pour ne pas s'y rendre. Et ils se réjouissaient d'être restés chez eux à l'arrière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils étaient contents de ne pas s'être rendus à cette bataille. فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا وأحب أن يحمدوا بما لم يفعلوا. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam revenait, il venait à lui pour s'excuser. Et il jurait, il faisait des serments. C'est-à-dire qu'il trouvait des excuses, faisait des serments, prétendant qu'il n'avait pas pu venir, alors qu'il s'était réjoui de ne pas être venu. Et ils aimaient se faire louer pour ce qu'ils n'avaient pas fait. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ. Alors ce verset est descendu. Ne pense point que ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont fait, ils se réjouissent de ne pas avoir participé à cette bataille, et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait. Ils aiment qu'on les loue du fait qu'ils regrettent, en apparence, de ne pas être venus, alors qu'ils ne regrettent pas en réalité. Ne pense vraiment pas qu'ils trouveront une échappatoire au châtiment. Il y aura pour eux un châtiment douloureux. Le musulman, il doit toujours faire preuve de sincérité et de véracité. Et le fait d'aimer être loué pour une chose que tu n'as pas fait, tu dois savoir que ceci est un manque de sincérité, un manque de véracité, et cela fait partie des caractéristiques des hypocrites. Tu ne dois pas chercher à laisser penser que tu as fait un acte de bien et aimer te faire louer pour cela ou recevoir des compliments. Mais tu te dois d'être véridique, que ce que prononce ta langue soit en accord avec ce qui se trouve dans ton cœur. Telle est la véracité. Quant au fait de chercher à être complimenté pour une bonne action que tu n'as pas faite, alors ceci est une chose blâmable. D'autant plus si en parallèle de cela, tu te réjouis en réalité de ne pas avoir fait cette bonne action, ou tu te réjouis d'avoir fait un péché. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « فَهَذِهِ الْخِصَالِ خِصَالُ الْيَهُودِ وَالْمُنَافِقِينَ » Ces caractéristiques sont les caractéristiques des juifs et des hypocrites. « وَهُوَ أَنْ يُظْهِرَ الْإِنسَانُ فِي الظَّاهِرِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا وَهُوَ فِي الصُّورَةِ الَّتِي ظَهَرَ عَلَيْهَا حَسَنًا » Et c'est le fait que l'homme, il laisse apparaître une parole ou un acte qui en apparence est une bonne chose. وَمَقْصُودُهُ بِذَٰلِكَ التَّوَصُّلُ إِلَى غَرَضٍ فَاسِدٍ. Alors que son objectif en cela est d'atteindre un objectif corrompu, un mauvais objectif. Comme on a vu, il construit une mosquée. En apparence, c'est une bonne action. Mais il recherche à travers cela de nuire aux musulmans en réalité. Une mosquée républicaine, par exemple, comme on en entend parler aujourd'hui. Ce n'est pas une mosquée qui est construite pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour élever la religion d'Allah. Non, c'est une mosquée qui est faite et édifiée pour nuire à l'islam et aux musulmans. Un autre exemple, une personne donne des aumônes à une personne dans le besoin. En apparence, c'est une bonne action. Mais son objectif à travers cette aumône, c'est quoi? C'est de profiter de cette personne. Ou alors, de l'attirer avec elle dans son égarement. Comme le font nombre de personnes parmi les gens de l'innovation, qui utilisent l'argent pour égarer les gens. En apparence, ils font des aumônes. Ils font des œuvres de bienfaisance. Ils financent le forage de puits. Ils s'occupent d'orphelinats, d'hôpitaux. Mais en réalité, ils cherchent quoi à travers cela? Appeler les gens à leur secte et à leur innovation. En apparence, ce sont des œuvres de bien. Mais au fond, ils ont d'autres objectifs. Ou bien de secourir leur parti, leur groupe, parmi les groupes, les gens de l'innovation et des passions. Ou alors des objectifs politiques ou autres. Et ceci, comme l'auteur, rahimahullah ta'ala, l'a mentionné, cela fait partie des caractéristiques des juifs et des caractéristiques des hypocrites. Comme vous l'avez entendu à travers l'explication du verset de Surat Ali Imran. Ensuite, il dit, rahimahullah, فَيَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَظْهَرَ مِنْ ذَلِكَ الْحَسَنِ وَيَتَوَصَّلُ هُوَ بِهِ إِلَى غَرَضِهِ الْفَاسِدِ الَّذِي هُوَ أَبْطَنَهُ. Il dit, les gens alors vont le louer pour ce qu'il a montré en apparence comme bonne chose, comme acte de bien, comme parole de bien. Mais lui, par cela, il va atteindre son mauvais objectif, son objectif corrompu qu'il a caché en son fort intérieur. وَيَفْرَحُ هُوَ بِحَمْدِهِ عَلَى ذَٰلِكَ الَّذِي أَظْهَرَ أَنَّهُ حَسَنٌ. Et il se réjouit qu'on le loue et qu'on le complimente pour cet acte qu'il a montré comme étant une bonne action. Cette aumône, la construction de cette mosquée, le forage de ce puits, et ainsi de suite. Il se réjouit que les gens le louent pour cela. Il se réjouit de recevoir leurs compliments. وَفِي الْبَاطِنِ سَيِّهِ. Alors que dans son fort intérieur, cette chose est mauvaise. وَعَلَى تَوَصُّلِهِ فِي الْبَاطِنِ إِلَى غَرْضِهِ السَّيِّهِ.
Dans son fort intérieur, il ne cherche qu'à atteindre son objectif mauvais. فَتَتِمُّ لَهُ الْفَائِدَةُ وَتُنَفَّذُ لَهُ الْحِيلَ بِهَادَ الْخِضَاعَ. Il dit par cette ruse et par cette tromperie, il va obtenir le bénéfice qu'il recherchait. Il va ainsi profiter des compliments et des éloges des gens qui pensent qu'il a fait une bonne action. Et il va atteindre en parallèle de cela son objectif corrompu. Donc le Shir, rahimahullah ta'ala, il nous explique tout cela en guise d'introduction afin de nous faire comprendre la gravité d'agir de cette manière. Puis, il va nous expliquer comment cela peut avoir lieu à travers le dénigrement que l'on fait passer pour un conseil. Il dit donc, وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ هِمَّتُهُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَلَا بُدَّ. Celui dont tel est l'objectif, il est concerné par ce verset, ceci est inévitable. Le verset de Sourate Ali Imran. فَهُوَ مُتَوَعَدٌ بِالْعَذَابِ الْأَلِيمِ. Il est donc sous la menace d'un châtiment douloureux. وَمِثَالُ ذَلِكِ. Et l'exemple de cela. On arrive donc au vif du sujet ici. أَنْ يُرِيدَ الْإِنسَانِ ذَمَّ رَجُلٍ وَتَنَقُّسَهُ وَإِذْهَارَ عَيْبِهِ لِيَنْفُرَ النَّاسُ عَنْهُ إِمَّا مَحَبَّةً لِإِذَاهِهِ أَوْ لِعَدَاوَتِهِ أَوْ مَخَافَةً مِنْ مُزَاحَمَتِهِ عَلَى مَالٍ أَوْ رِئَاسَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمَذْمُومَةِ. L'exemple de cela, c'est quoi? Concernant notre sujet ici, la différence entre le conseil et le dénigrement. C'est qu'un homme, il veille blâmer un autre homme, ou le rabaisser, ou mettre en évidence ses défauts, afin que les gens s'éloignent de lui. Il a cela pour objectif. Il veut rabaisser une personne, la dénigrer, dévoiler ses défauts, les mettre en évidence. Pourquoi? Pour que les gens s'éloignent de lui. Et pourquoi il fait cela? Soit par amour de lui nuire, c'est-à-dire qu'il trouve du plaisir à nuire à cette personne, ou alors pour une animosité qu'il a contre lui. Il est par exemple en conflit avec lui, donc il cherche à lui nuire, à lui porter atteinte. Ou alors par peur qu'il le concurrence quant à l'acquisition de biens ou de notoriété ou autre chose semblable parmi les causes blâmables. Donc tel est son objectif. Retenez bien cela, son objectif c'est quoi? De blâmer une personne, la rabaisser, dévoiler ses défauts, les mettre en évidence, afin que les gens s'éloignent de cette personne. Ou bien parce qu'il veut lui nuire, cela lui fait plaisir, ou alors parce qu'il est en conflit avec cette personne, ou alors parce que cette personne le concurrence dans l'acquisition de biens ou de notoriété, ou autre chose semblable parmi les causes blâmables. Donc comment va-t-il faire pour atteindre cet objectif? Il n'y a pas de doute que, s'il montre en apparence cet objectif mauvais, les gens ne vont pas le suivre. Ceci va être rejeté. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit donc, فَلَا يَتَوَصَّلُ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا بِإِظْهَارِ الطَّعْنِ فِيهِ بِسَبَبٍ دِينِي. Subhanallah. Et il ne peut atteindre cela qu'en montrant que sa critique a une cause religieuse. C'est donc exactement ce qui est mentionné dans le verset. Il va rabaisser cette personne, la dénigrer, en faisant croire que c'est pour un objectif religieux, pour une bonne raison, une raison justifiée. Mais en réalité, son objectif, c'est juste de nuire à cette personne, car il a de l'animosité contre elle. Cette personne le gêne, elle lui fait de l'ombre. Cette personne, il ne l'aime pas, et il a envie de lui nuire. Il veut donc que les gens s'écartent de cette personne. Il va donc la dénigrer, afin que les gens s'éloignent d'elle, mais il va déguiser cela sous l'apparence d'un conseil religieux. Le Cheikh rahimahullah ta'ala dit, « Mithlou, par exemple, cette personne qu'il veut dénigrer, il aura peut-être réfuté une parole faible parmi les paroles d'un savant reconnu. Il va alors propager parmi ceux qui révèrent ce savant que un tel déteste ce savant, qu'il le blâme, qu'il le dénigre, et il va ainsi tromper tous ceux qui révèrent ce savant. C'est une chose que l'on a pu observer à notre époque. Nombre de personnes ont recours à ce genre de procédé pour éloigner les gens des prédicateurs de la sunna ou des mashayikhs. Ils utilisent les sentiments des gens. Donc, ils vont aller chercher la parole de cette personne qu'ils détestent et qu'ils veulent faire tomber, comme on le dit aujourd'hui dans le langage familier. Ils vont lui chercher une parole dans laquelle il aurait réfuté l'erreur d'un savant avec une grande renommée. Et ils vont propager cela parmi les gens qui révèrent ce savant. Et ils vont leur dire, regardez, celui-ci dénigre les savants. Celui-ci cherche à rabaisser le savant. Celui-ci cherche à écarter les gens du savant, à prendre la place des savants. Et ainsi de suite parmi les paroles que l'on peut entendre de la part de ces gens. L'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous dit, وَيُوهِمُهُمْ أَنَّ بُغْضَ الرَّادِ وَأَذَاهُ مِنْ أَعْمَالِ الْقُرَبِ. Il leur fait croire, il fait croire aux gens que le fait de détester cette personne qui a réfuté le savant et lui porter préjudice à cette personne, cela fait partie des bonnes œuvres. لِأَنَّهُ ذَبٌ عَنْ ذَلِكَ الْعَالِمِ. Car c'est une manière de défendre ce savant. وَرَفْعُ الْأَذَى عَنْهُ. Et de dissiper les nuisances qui lui sont causées. وَذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَطَاعَةٌ. Et ceci est un moyen de se rapprocher d'Allah et un acte d'obéissance. Allahu Akbar. On dirait que l'auteur, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a écrit ces lignes, il était parmi nous durant ces dernières années, durant cette fitna que nous avons vécue, avec certaines personnes qui ont cherché à semer les troubles et la division au sein des gens de la sunnah. Vous avez vu ces gens prendre pour argument, pour éloigner la masse des musulmans, de nombre de mashayikh, d'étudiants et de prédicateurs parmi les gens de la sunnah. Avec pour argument, ils veulent faire tomber les savants. Ils dénigrent les savants. Ils veulent vous éloigner des savants. Ils ne vont épargner personne. Ils feront tomber tous les savants. Et ainsi de suite parmi leurs allégations mensongères. Et lorsque tu leur demandes des preuves de ce qu'ils prétendent, ils ne pourront t'amener que des réfutations de certaines erreurs commises par ces savants. Ou alors, parfois même, la simple transmission de la réfutation d'un savant contre cet autre savant. Pour eux, ceci est un dénigrement. Ils sont tombés dans les mêmes erreurs dans lesquelles sont tombés nombre de personnes parmi les déviants qui les ont précédés. Lorsque tu transmets les mises en garde des savants spécialisés dans ce domaine, dans le domaine de la critique et l'éloge, à l'exemple de l'imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, ou l'éminent savant Ubayd ibn Abdillah al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala. Si tu transmets leurs paroles dans lesquelles ils avertissent ou mettent en garde contre des déviants, ils te disent, vous dénigrez les savants, vous semez les troubles, vous semez la discorde. Alors qu'en réalité, ce sont eux qui ne font que semer les troubles et la discorde, en rejetant les conseils émis par ces grands savants. Donc, pour éloigner la masse des étudiants ou des prédicateurs, ils vont leur faire croire que ces étudiants et ces prédicateurs sont des gens mauvais qui dénigrent les savants. Et ils prétendent faire cela pour défendre ce savant, ou pour secourir la religion. Et ils pensent ainsi se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par leur médisance, et voire même leur calomnie, wal'iyadu billah. Ils sont donc exactement tombés dans ce qui est mentionné dans ce verset. Ne pense point que ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont fait, qui se réjouissent de dénigrer les prédicateurs sur la sunnah, les mashayikh de la sunnah, en prétendant que ceci est une défense de la vérité, et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait. Ils aiment qu'on leur dise, Masha'Allah, vous, vous défendez les savants, vous, vous respectez les savants, vous, vous révérez les gens de science, vous, vous reconnaissez la place importante des gens de science. Ils aiment cela. Ne pensent vraiment pas qu'ils trouveront une échappatoire au châtiment. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider au repentir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les ramener à la raison et de leur faire prendre conscience de leur erreur et du mauvais chemin qu'ils ont emprunté. Car, comme l'a mentionné l'auteur, rahimahullah ta'ala, ceci fait partie des formes les plus apparentes de dénigrement. De dénigrer en laissant penser que l'on conseille. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de mises en garde contre tel ou tel ou tel parmi nos frères prédicateurs qui sont sur la sunnah, qui ont des efforts depuis de nombreuses années dans l'appel au tawhid, l'appel au suivi de la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam selon la voie des pieux prédécesseurs rahimahumullah ta'ala. Et nombre de personnes, bien souvent parmi les inconnus, se sont mis en avant ces dernières années dans la critique de ces prédicateurs, dans la critique de ces étudiants, dans la critique de ces frères de confiance qui font des efforts depuis de nombreuses années. Pourquoi ? Sous prétexte que ses frères auraient dénigré tel ou tel savant. Alors qu'en réalité, ils n'ont fait que réfuter les erreurs de ces personnes affiliées à la science. Et transmettre les mises en garde de gens de science plus éminents que ces personnes qu'ils prétendent défendre. Mais, étant donné qu'il est connu que dénigrer les savants est quelque chose de blâmable, et que ceci est une parole trompeuse par laquelle peuvent se faire leurrer nombre de personnes parmi les gens de la masse, ils ont utilisé de cette ruse, prétendant conseiller, alors qu'en réalité ils ne cherchaient que dénigrer ceux contre qui ils avaient de l'animosité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore la situation de notre communauté et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos fautes, nos manquements et unisse la parole des gens de la sunna sur la vérité. Il dit ensuite, rahimahullah, فَيَجْمَعُ هَذَا الْمُظْهِرُ النُّصْحِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَبِيحَيْنِ مُحَرَّمَيْنِ. Il dit donc, cette personne qui a montré en apparence qu'il conseillait, elle a réuni entre deux choses viles, abjectes et interdites. Il dit la première, أَنْ يَحْمِلَ رَدَّ الْعَالِمِ الْقَوْلَ الْآخَرِ عَلَى الْبُغْضِ وَالطَّعْنِ وَالْهَوَى وَقَدْ يَكُونُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ النُّصْحَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِظْهَارَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ كِتْمَانُهُ مِنَ الْعِلْمِ. Il dit, la première chose vile, abjecte et interdite qu'il a commise en cela, c'est qu'il a interprété la réfutation du savant de la parole de cette autre personne de science comme étant une manifestation de haine ou une critique ou une manifestation du suivi des passions. Alors qu'en réalité, il se peut que ce savant n'ait voulu à travers cela, à travers cette réfutation, que le conseil, la loyauté envers les croyants, et mettre en évidence ce qu'il ne lui est pas permis de cacher parmi la science. Le savant, il n'a pas le droit de se taire sur les erreurs, alors qu'il peut les dénoncer. S'il considère qu'une parole d'un autre savant est une erreur, ou que la fatwa d'un autre savant est une erreur, ou que ce à quoi appelle un autre savant est une erreur, alors il réfute et il met en garde contre cela. Et son objectif est de conseiller les croyants et de ne pas cacher la science qui lui est interdit de cacher. Et comme on a vu précédemment, dans un autre passage de ce livre, la base est que la réfutation, tant qu'il n'y a pas d'indice ou de preuve nous démontrant que son auteur a une mauvaise intention, est de lui donner la meilleure des interprétations. Et on doit considérer qu'il a prononcé cette réfutation ou qu'il l'a écrite pour défendre la religion. Il ne nous est pas permis de l'accuser d'autre que cela, sans preuve ni indice. Ensuite, il dit, وَثَانِي, la deuxième chose, vile, abjecte et interdite, qu'il a fait en prononçant ses paroles, en laissant penser que c'est un conseil, alors qu'en réalité c'est une critique. أَنْ يُظْهِرَ الطَّعْنَ عَلَيْ لِيَتَوَصَّلَ بِذَلِكَ إِلَى هَوَى وَغَرَضِهِ الْفَاسِدِ في قالب النصح والذب عن علماء الشرع. La deuxième chose qui est interdite, c'est qu'il a manifesté cette critique afin d'atteindre ce qu'il désirait et son objectif mauvais et corrompu en lui donnant l'apparence d'un conseil et la défense des savants de la religion. Et comme sont nombreux ces gens aujourd'hui qui cherchent à rabaisser les gens de la sunna, à dénigrer les gens de la sunna et qui font cela sous couvert de la défense de la religion, de la défense des savants. Et ceci est une ruse à laquelle ils ont eu recours, et nombre de personnes se sont laissées tromper. Wallahu al-musta'an. Donc si une personne vient à toi, et essaye de te mettre en garde contre une personne connue et de confiance parmi les gens de la sunnah, parmi les mashayikhs, les prédicateurs ou les étudiants, et que son seul argument est de te dire il dénigre les savants, demande-lui ses preuves. Ne t'empresse pas de croire à cette accusation, sans demander au préalable les preuves. D'accord. Il dénigre les savants. Montre-moi ces dénigrements. Où sont ces dénigrements? Bien souvent, il sera incapable de t'amener quoi que ce soit. Car, beaucoup d'entre eux ne font que répéter ce qu'ils ont entendu, Wallah al-musta'an. Ils ne se rendent pas compte de la gravité de ce qu'ils font en éloignant les gens des prêcheurs à la vérité. Surtout, à cette époque où les prêcheurs au faux et à l'innovation sont nombreux. Donc en faisant cela, ils font obstacle à la transmission de la vérité que transmettent ces mashayikhs, ces prédicateurs et ces étudiants, wal'iyadhu billah. Ensuite, s'il t'amène une preuve, qu'il prétend être une preuve de dénigrement, assure-toi que ce qu'il t'amène n'est pas simplement la réfutation d'une faute ou d'une erreur de ce savant qu'il prétend défendre. Car bien souvent, ces gens, en raison de leur faiblesse d'esprit et de leur ignorance, ils considèrent, comme on l'a vu dans des cours précédents, la réfutation comme étant une forme de dénigrement, et ce, car ils ne font pas la différence entre le conseil et le dénigrement. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné une longue parole afin d'illustrer cela, et il a mentionné certains événements qui se sont passés au temps des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et étant donné notre niveau de science, je préfère m'abstenir de lire ces paroles et de les traduire, et ce en raison du respect et de la révérence que l'on se doit d'avoir à l'égard des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. En effet, il se peut qu'il se soit passé certaines choses à leur époque, au sujet desquelles il ne nous convient pas de nous étaler. Et comme le mentionnaient les savants, c'est une adoration pour nous et un moyen de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous abstenir de parler de ce qui s'est produit entre les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, et de ne les mentionner que de la meilleure manière. Et ce, en raison du fait qu'ils ont atteint ce rang éminent en tenant compagnie au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de les dénigrer, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé son pardon et nous a informé qu'il est satisfait d'eux, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que lorsqu'on parle des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ne doivent être mentionnés qu'en bien, et nous devons nous abstenir d'évoquer ce qui s'est produit entre eux et interpréter ce qui est provenu d'eux de la meilleure manière. C'est pour cela que, comme l'ont mentionné certains parmi les gens de science, il aurait été préférable que l'auteur, rahimahullah ta'ala, mentionne un autre exemple pour illustrer ce qu'il a voulu démontrer. C'est pour cela que je préfère m'abstenir de lire ces paroles. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on verra dans le cours de demain, qui sera le dernier cours, le dernier passage de ce livre, dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, va adresser un conseil à toute personne qui pourrait être victime de dénigrement, afin qu'elle sache comment remédier à cela et comment y faire face. On verra donc cela dans le cours de demain. Bi'inillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.